le royaume de Dieu où Jésus-Christ règne. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 28. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les indices que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » La foi de Pierre, qui a confessé Jésus comme roi, souverain sacrificateur et prophète, est la foi des saints d'aujourd'hui. La foi avec laquelle Pierre a confessé Jésus comme roi, souverain sacrificateur et prophète n'est pas simplement une confession de foi de cette époque, mais une confession de foi essentielle qui doit s'appliquer directement à nous, les croyants d'aujourd'hui. La foi qui croit en Jésus comme le roi des rois est la foi qui croit que Jésus est le souverain qui règne sur nos vies et le vrai roi qui gouverne le royaume de Dieu. Pierre n'a pas vu Jésus comme un simple chef ou enseignant. Il a confessé Jésus comme le roi céleste qui accomplit le règne de Dieu. Une personne qui croit en Jésus comme roi ne considère pas ses paroles comme de simples leçons, mais les accepte comme les paroles de l'absolu. Par conséquent, ce sont ceux qui donnent la priorité à la volonté de Dieu sur la leur, et suivent les valeurs du royaume de Dieu plutôt que les valeurs du monde. Cette foi établit l'ordre dans nos vies, et apporte une paix véritable à nos cœurs. Ensuite, la foi qui croit en Jésus comme le souverain sacrificateur céleste consiste à croire le fait que Jésus lui-même est devenu une offrande sacrificielle pour expier les péchés de l'humanité. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament servait de médiateur entre Dieu et l'homme en offrant des sacrifices pour les péchés du peuple. Cependant, Jésus, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et en versant son sang sur la croix, a ôté tous les péchés de l'humanité en une seule fois. Par conséquent, croire en Jésus comme le souverain sacrificateur céleste signifie confesser la foi que je ne suis pas rendu juste par mes œuvres, mais que Jésus, en mon nom, a porté les péchés du monde par le baptême donné par Jean. Une personne avec une telle foi ne demeure pas dans la culpabilité, mais vit une vie de foi dans la liberté et la gratitude, dans l'assurance de la foi que Jésus a déjà porté leurs péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean. De plus, la foi en Jésus comme prophète consiste à croire qu'il est celui qui proclame la volonté et la parole de Dieu. Pierre n'a pas vu Jésus simplement comme quelqu'un qui accomplit des miracles, mais a réalisé qu'il était celui qui est venu comme la parole de Dieu elle-même. Dans le chapitre 1 de Jean, il est témoigné, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Pour nous, croire en Jésus comme prophète aujourd'hui signifie accepter ses paroles non pas comme de simples enseignements religieux, mais comme la parole de Dieu qui m'est donnée maintenant. Jésus nous parle encore aujourd'hui à travers les paroles de l'Écriture et la lumière du Saint-Esprit. Par conséquent, chaque fois que nous entendons la parole, nous devons obéir avec un cœur qui dit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». En conclusion, la confession de Pierre n'était pas une simple expression de foi, mais une confession complète de l'Évangile, croyant en Jésus dans son triple office, c'est-à-dire Jésus qui est roi, souverain sacrificateur et prophète. Aujourd'hui, lorsque nous vivons nous aussi en gardant cette foi dans nos cœurs, Jésus devient le roi qui règne sur nos vies, le souverain sacrificateur qui ôte nos péchés, et le prophète qui guide nos âmes. La vraie foi consiste à savoir correctement qui est Jésus, et à vivre dans l'obéissance à son règne et à son ministère de rédemption. On peut dire que ceux qui vivent avec ce genre de foi sont ceux qui vivent avec une foi semblable à la foi de Pierre, qui nous a été donnée aujourd'hui. À propos de Jésus, le roi des rois. L'affirmation « Jésus est le roi des rois » est une confession de profonde signification qui contient toute l'histoire rédemptrice de Dieu. La Bible témoigne que Jésus ne demeure pas comme le souverain d'une nation ou une figure de l'histoire, mais qu'il vit comme le souverain et le maître absolu qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Le fait que Jésus soit devenu roi n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard dans l'histoire humaine, mais il parle de celui qui accomplit le salut, que Dieu le Père a prédestiné avant la fondation du monde. Comme il est dit dans le psaume 2, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Dieu avait déjà projeté, avant même que l'humanité ne tombe dans le péché, d'établir et d'œuvrer par le roi, le vrai sauveur qui régnerait sur le monde par Jésus-Christ. La domination qui fut perdue par le péché d'Adam a été restaurée lorsque Jésus a pris sur lui le péché du monde en recevant le baptême de Jean, et par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il est venu comme le roi qui a sauvé l'humanité tombée dans le péché, et par son propre ministère de justice, il a sauvé le peuple de Dieu et a reconquis la royauté perdue. Par conséquent, la royauté de Jésus est la volonté de Dieu, prédestinée avant la fondation du monde, et c'est le plan de Dieu qui a été complètement accompli par l'œuvre rédemptrice et juste de Jésus-Christ. Cependant, Jésus est un roi complètement différent des rois du monde. Tandis que les rois du monde gouvernent le peuple avec puissance et autorité, Jésus règne avec la vérité de l'amour et du salut, qui est accompli par son ministère de justice et de salut. Dans Jean, chapitre 18, verset 36, Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le royaume de Jésus n'est pas un royaume établi par la force politique ou le pouvoir séculier. C'est un royaume spirituel auquel on obéit par la foi au sein du cœur humain. Jésus a vaincu le monde en ce que le péché du monde a été transféré sur lui par le baptême de Jean, en étant crucifié et en versant son sang dans la mort, et par sa résurrection, il a brisé l'autorité de la mort, du péché et du diable. Faisant agenouiller toute la création devant lui, le ministère de justice et le règne juste de Jésus sont la véritable autorité que le roi des rois possède. Jésus, qui est ressuscité des morts, a proclamé à ses disciples dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Cette déclaration signifie que Jésus est devenu non seulement le roi des Juifs, mais le souverain de toutes les nations et de toute la création. Cela signifie que les anges du ciel, les autorités de la terre, et même les forces de Satan doivent se soumettre devant son nom. Apocalypse, chapitre 19, verset 16 témoigne, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ceci montre que Jésus est celui qui apparaîtra comme le roi absolu qui jugera toutes les autorités du monde au dernier jour et régnera pour toujours. Par conséquent, ceux qui croient en Jésus doivent vivre dans l'obéissance à sa royauté. Accepter Jésus comme roi signifie reconnaître que je ne suis pas le maître de ma vie, mais que Jésus est mon maître. Donner la priorité à la parole sur mon propre jugement, suivre la volonté du Seigneur plutôt que mes propres plans, et établir le règne de Jésus au centre de ma vie, voilà la vie de la vraie foi. Ce n'est qu'en vivant ainsi que nous en venons à vivre une vie où le royaume de Dieu est advenu. Une vie gouvernée par Jésus n'est pas le chaos mais la paix, et non la peur mais l'audace de la foi. Jésus règne comme roi en ce moment même à la droite du trône céleste, et il est celui qui mettra tous les ennemis sous ses pieds au dernier jour et reviendra comme le roi de gloire. Comme les paroles de Daniel, chapitre 7, verset 14, la déclaration « Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point » et son règne ne sera jamais détruit et est une vérité immuable. Par conséquent, la vraie foi est la foi qui croit en Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme le Roi des Rois. Lui obéir, et vivre dans l'attente de son royaume, est la vie de celui qui croit au Roi des Rois. Concernant Jésus qui a accompli le ministère de souverain sacrificateur pour l'humanité. Que Jésus ait accompli le ministère de souverain sacrificateur pour l'humanité signifie qu'il s'est tenu comme le médiateur entre les pécheurs et Dieu, et a accompli tous les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament par son propre ministère. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament était un modèle de salut établi par Dieu pour expier le péché, et tous ces sacrifices de l'Ancien Testament prophétisaient le ministère de Jésus-Christ qui devait venir. Le juste ministère de Jésus-Christ était un ministère consistant à faire transférer sur lui les péchés du monde par le baptême donné par Jean-Baptiste, en étant crucifié et en versant son sang, et en ressuscitant des morts pour accomplir une expiation éternelle. À l'époque de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était la seule personne qui offrait des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Il transférait le péché du pécheur sur l'animal sacrificiel, l'offrande, en imposant ses mains sur lui, et accomplissait l'enlèvement des péchés en aspergeant son sang sur l'autel. Cela montrait simultanément le fait que les humains ne peuvent pas purifier leurs propres péchés, et cela montrait aussi l'accomplissement du salut par l'effusion du sang sur la croix par Jésus-Christ, le vrai souverain sacrificateur céleste à venir, qui ferait transférer sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Selon le livre aux Hébreux, Jésus n'était pas un sacrificateur de la tribu de Lévi, mais un souverain sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisédek. En d'autres termes, Jésus n'est pas un sacrificateur par lignée humaine ou par le système sacrificiel, mais un sacrificateur céleste établi par la volonté de Dieu et la justice éternelle. Tout comme le disent les paroles, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. » Hébreux, chapitre 9, verset 11. Jésus, afin d'offrir son propre corps comme un sacrifice offert une fois pour toutes, a fait transférer sur lui les péchés du monde par le baptême donné par Jean-Baptiste, a été crucifié, et est ressuscité des morts, devenant ainsi l'éternel sacrificateur céleste. Le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur se compose de trois étapes. Premièrement, Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, et a fait transférer sur lui tous les péchés de l'humanité. Jésus, en faisant transférer sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, a sauvé les pécheurs en versant son sang sur la croix. C'est pourquoi, à l'égard de Jésus, Jean-Baptiste a pu témoigner, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Jean, chapitre 1, verset 29. Deuxièmement, il est dit que Jésus, en recevant le baptême donné par Jean, en faisant transférer sur lui les péchés du monde, et en étant crucifié et en versant son sang, en tant que la réalité du sang qui était aspergé sur l'autel de l'Ancien Testament, a reçu en une seule fois tout le jugement de Dieu contre le péché. Jésus, étant le souverain sacrificateur dans le royaume des cieux, a pu accomplir une expiation éternelle par le sacrifice unique de son baptême reçu de Jean et de sa crucifixion et de l'effusion de son sang. La parole qui dit, « Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Hébreux, chapitre 10, verset 14. A été accompli. L'événement de Jésus-Christ faisant transférer sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean et en versant son sang est devenu un sacrifice complet de salut qui n'a pas besoin de répétition. Troisièmement, après sa résurrection, Jésus est monté au ciel et accompli un ministère d'intercession éternelle dans le sanctuaire céleste. Tout comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament entrait dans le lieu très saint et aspergeait le sang le jour de l'expiation, Jésus a accompli le sacrifice expiatoire éternel pour nous, qui entrons dans le sanctuaire céleste, par son propre baptême et son sang. Même maintenant, Jésus intercède pour les saints à la droite du trône de Dieu et existe comme un médiateur qui connaît nos faiblesses. La parole qui dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Témoigne de ce fait. Le ministère de salut, dans lequel Jésus, qui est devenu le souverain sacrificateur, a été baptisé par Jean pour que les péchés du monde lui soient transmis, a été crucifié et a versé son sang, était un ministère qui a éliminé en une seule fois tous les péchés de tous ceux qui croient en Jésus. Premièrement, il a parfaitement accompli l'enlèvement des péchés du pécheur. Il a rendu les sacrifices répétitifs de l'Ancien Testament et les prières de repentance que les personnes religieuses pratiquent aujourd'hui non plus nécessaires. Le sacrifice que Jésus a offert en étant baptisé par Jean pour que les péchés du monde lui soient transmis, en étant crucifié et en versant son sang, est devenu un sacrifice éternel qui ôte les péchés de tous les âges et de tous les peuples. Deuxièmement, il est devenu celui qui opère la réconciliation avec Dieu. L'acte de Jésus éliminant tous les péchés, par le baptême qu'il a reçu de Jean par lequel les péchés du monde lui ont été transmis, et par le sang qu'il a versé sur la croix, a renversé le mur de séparation entre Dieu et les pécheurs. Et maintenant nous avons été rendus capables de nous approcher de Dieu avec assurance par la foi. Comme il est écrit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux, chapitre 4, verset 16. Nous avons pu être sauvés par la foi qui croit que le baptême et le sang de Jésus ont ouvert le chemin du salut qui nous mène à Dieu. Troisièmement, Jésus, dans le sanctuaire du royaume des cieux, sert encore maintenant éternellement comme notre médiateur. Cela signifie que même lorsque nous sommes faibles ou tombons dans le péché, Jésus, en tant que notre avocat et intercesseur, nous représente avec sa propre justice qui nous a sauvés du péché. En conclusion, le ministère de souverain sacrificateur de Jésus est la preuve certaine qu'en tant que celui qui a accompli la loi sacrificielle de l'Ancien Testament, il a accompli toutes ses préfigurations. Jésus a fait transférer sur lui les péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean, et en versant son précieux sang sur la croix, il a accompli une expiation éternelle pour l'humanité. Et par sa résurrection et son ascension, il est devenu le médiateur éternel. Par son ministère, nous sommes parvenus à obtenir l'assurance du salut du péché et sommes devenus des personnes qui peuvent s'approcher de Dieu avec assurance au lieu de la peur. Ceci est la preuve certaine que Jésus-Christ est devenu le souverain sacrificateur pour l'humanité. Comment Jésus, en tant que grand prêtre du royaume des cieux, a sauvé son peuple de ses péchés? Le ministère par lequel Jésus, en tant que grand prêtre du royaume des cieux, a sauvé son peuple du péché est la vérité fondamentale de l'accomplissement complet du système sacrificiel de l'Ancien Testament. Le grand prêtre de l'Ancien Testament était une personne qui offrait des sacrifices à Dieu au nom du peuple et intercédait pour l'effacement des péchés, mais il devait offrir des sacrifices d'expiation de manière répétée chaque année, et ces sacrifices n'étaient qu'une ombre préfigurant le Christ à venir. Cependant, Jésus est venu sur cette terre comme la réalité de l'offrande sacrificielle de la loi sacrificielle de l'Ancien Testament, et en tant que véritable grand prêtre du royaume des cieux, il a sauvé l'humanité de tout péché en s'offrant lui-même comme un sacrifice parfait une seule fois. La manière dont Jésus a pris sur lui les péchés du monde a été accomplie par le baptême administré par Jean-Baptiste. En recevant le baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain, Jésus a fait passer tous les péchés de l'humanité sur son propre corps. Ceci est la réalité de l'acte de transfert des péchés par l'imposition des mains sur l'animal à sacrifier selon la loi sacrificielle de l'Ancien Testament. L'exclamation de Jean-Baptiste dans Jean, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » est la preuve même que Jésus est le Sauveur qui, en tant que grand prêtre, a fait passer tous les péchés de l'humanité sur son corps, a été crucifié et a payé le prix pour les péchés de son peuple avec son sang précieux. Après que les péchés du monde eurent été transférés sur lui par le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a accompli le sacrifice du salut en versant son sang précieux sur la croix. Le sang de Jésus-Christ, en tant que réalité de l'offrande sacrificielle sacrifiée sur l'autel de l'Ancien Testament, a fait de lui celui qui a complètement accompli la justice de la loi et l'amour du salut. Jésus a donné le salut à ceux qui croient, en recevant le baptême de Jean-Baptiste pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, en étant crucifié et en versant son sang, et en ressuscitant d'entre les morts. Maintenant, par la foi qui croit au baptême que le Seigneur a reçu et au sang précieux de la croix, nous sommes devenus capables de nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Et Jésus, le grand prêtre du ciel, connaît notre faiblesse même maintenant et devient notre intercesseur chaque fois que nous tombons. Par conséquent, celui qui croit au baptême de Jésus-Christ et à l'effusion de son sang sur la croix n'est plus un pécheur qui doit craindre dans la terreur et la culpabilité, mais est devenue une personne juste sauvée de tous les péchés et peut vivre par la foi. En conclusion, le ministère de grand prêtre de Jésus sur cette terre est devenu un ministère de l'effacement complet des péchés. Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean, a fait transférer sur lui le péché du monde, a été crucifié et a versé son sang, et par sa résurrection d'entre les morts et son ascension, il a accompli la justice de Dieu. Par conséquent, comme il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains, chapitre 8, verset 1. Nous avons reçu un salut où nous ne sommes plus condamnés, et n'avons pas à vivre dans la crainte du péché. Jésus, en tant que grand prêtre du ciel, garantit qu'il est devenu le sauveur éternel pour ceux qui croient, même maintenant, en prenant sur lui le péché du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et en accomplissant le sacrifice expiatoire en étant crucifié et en versant son sang. Concernant la preuve que Jésus est le roi de l'amour. Le fait que Jésus est le roi de l'amour est une vérité fondamentale à laquelle toute la Bible témoigne. Sa royauté n'est pas établie par le pouvoir et la domination comme l'autorité du monde, il est le souverain du royaume des cieux, établi par son propre sacrifice et son amour. Le règne de Jésus n'est pas une oppression mais une direction aimante qui donne la vie, et il est le Seigneur éternel qui a apporté la vraie liberté et la paix dans nos cœurs. Jésus est le roi qui a accompli le salut par la justice et l'amour. Les rois du monde soumettent leur peuple par le pouvoir et la force, mais Jésus a donné le salut à son propre peuple par la justice et l'amour de Dieu. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean, chapitre 18, verset 36. Son royaume n'est pas maintenu par la coercition ou la loi, mais est le royaume des cieux, établi pour ceux qui croient par la loi de l'amour de la justice et la justice de la vérité. Ceux qui sont devenus son peuple ne sont pas ceux qui se soumettent à lui par la force, mais ceux qui obéissent volontairement après avoir réalisé son amour. Jésus appelle son peuple des amis, non des serviteurs, en disant, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis. » Jean, chapitre 15, verset 15. C'est le règne du roi de l'amour, un royaume qui gouverne avec liberté et intimité. La royauté aimante de Jésus était remplie de sacrifices et de l'amour de la justice. Les rois du monde ne versent pas leur sang pour leur peuple, mais Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean, a fait transférer sur lui le péché du monde, et avec le sang qu'il a versé sur la croix, il a éliminé les péchés de son propre peuple. Comme le dit l'Écriture, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc, chapitre 10, verset 45. Jésus, bien qu'il fût un roi, est venu sous la forme d'un serviteur, a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour que le péché du monde lui soit transféré, a été crucifié et a versé son précieux sang, et en donnant sa propre vie, il est devenu le vrai sauveur pour ceux qui croient. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. Le règne de Jésus n'est pas établi par le pouvoir, mais consiste à gouverner et à protéger un royaume établi par le sacrifice de soi et l'amour. Jésus est le roi qui prend soin de son peuple avec son amour de la justice. Il n'utilise pas son autorité pour opprimer le peuple, au contraire, il a guéri les malades, cherché les perdus, et a accordé l'amour qui sauve ceux qui croient en faisant transférer le péché des pécheurs sur son propre corps par le baptême, en versant son sang sur la croix, et en ressuscitant de la mort. Comme le dit l'Écriture, « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean, chapitre 10, verset 11, Jésus, en tant que bon berger, a révélé son amour de la justice. Jésus a tendu la main aux malades et les a guéris, et a dit aux pécheurs, et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus ». Jean, chapitre 8, verset 11. Son amour est un amour inconditionnel de salut, et son règne a été accompli par l'amour de la justice, la miséricorde et le salut. Jésus, le roi de l'amour, demeure encore aujourd'hui dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas un roi de l'histoire passée, au contraire, même aujourd'hui, il règne en tant que roi de l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comme le dit l'Écriture, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Colossiens, chapitre 3, verset 15, son règne n'est pas une domination de pouvoir extérieur, mais s'accomplit par la paix intérieure du cœur. Lorsque Jésus est intronisé comme le roi de l'amour dans nos cœurs, la peur disparaît, et le pardon et la paix s'emparent de nos cœurs. Il change la peur en l'amour du salut, et la condamnation en grâce et en miséricorde. Au dernier jour, Jésus est celui qui reviendra et achèvera le royaume de l'amour. Le livre de l'Apocalypse témoigne de Jésus comme le roi des rois et seigneur des seigneurs, et sa seconde venue, bien qu'il vienne en tant que roi du jugement, montre l'achèvement de son règne d'amour. L'Écriture qui dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu », Apocalypse, chapitre 21, verset 4, montre le règne final que le roi de l'amour accomplira, c'est-à-dire un royaume où toute souffrance a disparu et où un ciel parfait est réalisé. En conclusion, la royauté de justice et d'amour de Jésus est éternelle. Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, a fait transférer sur lui les péchés du monde, a été crucifié sur la croix et a versé son sang, et donne le salut et la vie à ceux qui croient en sa mort et en sa résurrection pour notre salut. La royauté de Jésus-Christ n'a pas été établie sur la peur, mais sur l'amour et la miséricorde, et cet amour a été établi sur la puissance qui ne change pas et dure pour toujours. Son royaume tiendra ferme avec l'amour et la vérité, et son règne est éternel. Le fait que Jésus est le roi de l'amour signifie que son règne a été établi sur l'amour miséricordieux du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et du sang versé en étant crucifié sur la croix. Il n'est pas un roi qui opprime le peuple, mais est le roi qui a donné la liberté du péché à ceux qui croient au baptême d'amour et au sang de la croix. Ainsi, Jésus est le vrai Sauveur et le roi éternel qui a accompli la justice de Dieu et la miséricorde du salut. À propos de Jésus qui est devenu le souverain. L'affirmation « Jésus est devenu le souverain » est une grande déclaration que le plan de salut de Dieu a été accompli. Jésus n'est pas seulement celui qui est venu comme le sauveur de l'humanité, mais il existe encore maintenant comme le souverain éternel qui gouverne toutes choses dans le ciel et sur la terre. La Bible témoigne clairement du fondement sur lequel le règne de Jésus a commencé et de sa signification. L'autorité de Jésus pour régner n'a pas été obtenue par lui-même, mais est l'autorité céleste déléguée par Dieu le Père. Jésus, qui est ressuscité des morts, a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu, chapitre 28, verset 18. Cette déclaration signifie que Jésus a été établi non seulement comme un médiateur du salut, mais comme le souverain qui gouverne l'univers entier. Son autorité n'est pas confinée à une nation ou à une époque spécifique, mais est une souveraineté éternelle qui transcende tous les âges et tous les espaces. Le règne de Jésus a été établi par son baptême, la souffrance de la croix et sa résurrection. Les rois du monde obtiennent l'autorité par l'épée et la force militaire, mais Jésus est devenu roi comme prix de son sacrifice d'amour et de salut. Apocalypse, chapitre 1, verset 5, témoigne « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. » Jésus est monté sur le vrai trône en surmontant l'autorité du péché et de la mort, et en brisant le pouvoir de Satan qui avait tenu l'humanité en esclavage. Son trône a été établi par le baptême qu'il a reçu de Jean et le sang de la croix, et son règne n'est pas un règne de pouvoir oppressif, mais un règne composé de la justice de Dieu, de l'amour de la justice et de la vérité du salut. Le règne de Jésus n'est pas un événement du passé, mais un règne présent et continu qui se poursuit encore maintenant. Jésus est assis à la droite du trône céleste, présidant toutes choses dans le monde et régnant sur l'Église. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 22, témoigne « Qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis. » De plus, son règne n'est pas simplement un règne d'autorité extérieure, mais il s'accomplit aussi dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. Comme le dit la parole, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, Colossiens, chapitre 3, verset 15, Jésus règne sur nos cœurs avec vérité et amour, et dans la vie de celui où son règne est advenu, la paix et l'ordre sont établis. En tant que souverain, Jésus est celui qui jugera le monde au dernier jour. Pour l'instant, il règne avec l'amour miséricordieux et la grâce du salut, mais à l'avenir, il reviendra comme le juste juge. Actes, chapitre 17, verset 31, dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce jour-là, Jésus séparera les justes et les méchants, et il restaura complètement le royaume de Dieu. » Apocalypse, chapitre 19, verset 16, témoigne « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Ce jour-là, tout genou fléchira devant Jésus, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens, chapitre 2, versets 10 à 11. Ceux qui croient en l'amour de Jésus, qui a fait transférer sur lui-même les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a été crucifié, versant son sang, deviennent le vrai peuple de Dieu. Croire en Jésus comme le souverain est une confession d'offrir la souveraineté de sa vie à lui. Une personne qui accepte Jésus comme Seigneur donne la priorité à la volonté du Seigneur sur la sienne et prend la parole de Dieu comme loi de vie. Dans ce cœur, le chaos et l'anxiété du monde disparaissent, et la paix et l'ordre que le Seigneur donne sont établis. Comme dans les paroles de Romains, chapitre 14, verset 17, « La vérité que car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, se manifestent dans leur vie. » En conclusion, Jésus a établi sa royauté par le baptême qu'il a reçu de Jean, sa mort en versant son sang sur la croix, et sa résurrection, et il règne encore sur l'Église et le monde depuis le trône céleste. Son règne n'est pas un règne de pouvoir, mais un règne d'amour et de justice. Ésaïe, chapitre 9, verset 7, a prophétisé, « Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. » Jésus est le souverain éternel qui, même maintenant, règne sur nos cœurs, l'Église et le monde entier. Pour ceux qui croient au message de l'Évangile de l'eau du salut et du Saint-Esprit qu'il a donné, il règne dans leur cœur avec la paix. Concernant les bénédictions reçues par ceux qui vivent sous le règne de Jésus. Les personnes qui vivent sous le règne de Jésus, c'est-à-dire celles qui reçoivent sa domination, jouissent d'une véritable paix du cœur que le monde ne peut donner. Cette bénédiction n'est pas simplement la prospérité matérielle ou le succès extérieur, mais une paix spirituelle révélée dans l'être intérieur et la vie de ceux sur qui le règne de Dieu est venu. La Bible appelle ces personnes le peuple du royaume de Dieu. Ils vivent sous la souveraineté du ciel et jouissent d'une paix véritable non pas dans les valeurs du monde, mais dans la justice et l'amour de Dieu. Premièrement, ceux qui reçoivent le règne de Jésus jouissent d'abord de la bénédiction de la paix. Jésus a été appelé le prince de la paix, Ésaïe, chapitre 9, verset 6, dans la Bible. Son règne se manifeste non pas par la peur et l'anxiété, mais par la paix et la stabilité. Comme le dit la parole, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, Colossiens, chapitre 3, verset 15, dans le cœur d'une personne qui reçoit le règne de Jésus, une paix que le monde ne peut donner est établie. Même au milieu de situations de vie semblables à des tempêtes, au centre de leur cœur, il y a une paix intérieure inébranlable. C'est une grâce donnée lorsque l'on a confiance en la souveraineté de Jésus, et une paix dont on ne peut jouir que dans le règne céleste. Deuxièmement, ceux qui reçoivent le règne de Jésus sont guidés vers une vie juste. Le règne de Jésus brise le pouvoir du péché et de l'injustice et permet à son peuple de vivre dans la justice. Comme le dit la parole, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », Matthieu, chapitre 6, verset 33, une personne qui reçoit la domination de Jésus vit selon la volonté de Dieu, non selon ses propres désirs ou intérêts. En conséquence, les péchés du cœur disparaissent, et l'enlèvement des péchés et la sainteté se révèlent comme le fruit de la vie de cette personne. C'est précisément la preuve dans le cœur de celui sur qui le règne céleste est venu. La vie qui reçoit le règne de Jésus reçoit la bénédiction de celui qui vit en paix, étant transformée en une vie qui agit avec justice, libérée de tous les péchés du monde, c'est-à-dire, une vie qui plaît à Dieu. Troisièmement, ceux qui reçoivent le règne de Jésus croient à la parole de l'Évangile du vrai salut par l'eau et l'Esprit. Le règne du monde opprime les gens, mais le règne de Jésus les libère dans l'amour et donne la paix au cœur. Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean, chapitre 8, verset 32. Une personne qui reçoit le règne de Jésus est libérée de la condamnation du péché ou de la peur et jouit de la paix dans son cœur. Sa parole n'est pas une oppression, mais le pouvoir qui libère de la servitude. Cette foi sauvée n'est pas une liberté pour l'indulgence, mais une liberté qui jouit du privilège d'une vie sainte, capable de vivre selon la volonté de Dieu dans l'amour. Quatrièmement, ceux qui reçoivent le règne de Jésus jouissent de la bénédiction d'une vie abondante. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean, chapitre 10, verset 10. Une personne qui est gouvernée par Jésus et sa parole n'est pas simplement un être vivant, mais devient quelqu'un qui communie avec Dieu et plaît au cœur de Dieu par la foi spirituelle. Leur vie de foi déborde de gratitude et de joie, d'amour et de paix. La vie où le Seigneur règne n'est pas une vie de sécheresse, mais une vie de vie abondante. Cette vie ne vient pas des circonstances du monde, mais découle de la présence du Seigneur. Cinquièmement, ceux qui reçoivent le règne de Jésus jouissent de la bénédiction d'obtenir la citoyenneté dans le royaume des cieux. Bien qu'une personne qui reçoit le règne de Jésus vive sur cette terre, sa citoyenneté est au ciel. Comme le dit la parole, « Mais notre cité à nous est dans les cieux », Philippiens, chapitre 3, verset 20, « Ils n'appartiennent pas à l'ordre et aux valeurs du monde, mais vivent sous la loi du ciel. Ils ne sont pas ébranlés par les valeurs et les tendances du monde, et vivent dans la protection et la direction de Dieu tout en regardant vers le royaume éternel. Ce sont ceux qui vivent déjà en goûtant à l'avance au royaume des cieux sur cette terre. Sixièmement, ceux qui reçoivent le règne de Jésus deviendront héritiers de la gloire future. Apocalypse, chapitre 3, verset 21, dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Jésus ne reste pas simplement celui qui règne sur nous, mais il nous a établis comme héritiers de la gloire qui participeront ensemble à son règne. C'est la bénédiction ultime pour ceux qui vivent sous son règne, et la gloire éternelle pour nous de régner aussi en tant que roi avec le roi du ciel. En conclusion, une personne qui reçoit le règne de Jésus jouit des bénédictions d'avoir la paix dans son cœur, la justice dans sa vie, la liberté dans son âme, la plénitude de la vie, la possession de la citoyenneté céleste, et la participation à la gloire éternelle. Le règne de Jésus n'est pas un règne d'oppression, mais de restauration, c'est un règne non de peur, mais de paix et de vie. Ceux qui vivent sous sa domination sont ceux qui jouissent déjà des bénédictions du royaume des cieux, en commençant par cette terre. Quand Jésus devient Seigneur, et que sa parole et son amour gouvernent nos vies, nous en venons à expérimenter les bénédictions de la paix véritable, de la liberté et de la vie éternelle. Concernant ceux qui vivent dans le royaume des cieux gouvernés par Jésus. Le royaume des cieux, que Jésus gouverne, est un royaume rempli de bénédictions éternelles et spirituelles que le monde ne peut donner. Cette bénédiction ne signifie pas simplement le ciel où l'on va après la mort. Ceux qui vivent dans la foi vivent déjà en expérimentant la réalité de ce règne céleste même sur cette terre. La vie de ceux sur qui le règne de Jésus est advenu est remplie d'une nouvelle dimension de paix, de vie et d'amour. La Bible appelle cette bénédiction la bénédiction du royaume de Dieu et témoigne que tout cela a été accompli en Jésus. Avant tout, le royaume des cieux gouverné par Jésus est un royaume où Dieu lui-même est présent. Comme dans le verset, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Apocalypse, chapitre 21, verset 3, la plus grande bénédiction de ce royaume est la présence de Dieu elle-même. À l'endroit où le péché et la mort ont disparu, la présence de Dieu devient vie et joie. Son peuple est éternellement protégé au sein de cette présence, et il jouit de la bénédiction intime de communier directement avec Dieu. Ceux qui reçoivent le règne de Jésus vivent une vie de compagnie éternelle, non séparée de Dieu. Le royaume des cieux sous le règne de Jésus est un royaume où le péché et la mort ont complètement disparu. Comme dans le verset, « Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur », Apocalypse, chapitre 21, verset 4, « En ce lieu, il n'y a ni larmes, ni douleur, ni blessure. » Seules les personnes qui ont été purifiées par le baptême et le sang de Jésus entrent dans cette nation, et cette nation est un monde de paix parfaite. Le domaine de la sainteté où le pouvoir du péché ne peut plus atteindre, c'est l'essence même du royaume des cieux. Le peuple du royaume des cieux jouit de la bénédiction de la vie éternelle et de la résurrection. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean, chapitre 11, verset 25. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra et sera avec Dieu pour toujours. Cette vie n'est pas liée par les contraintes du temps et se poursuit dans une joie sans fin dans la gloire de Dieu. C'est la bénédiction la plus certaine du peuple du royaume des cieux, c'est-à-dire la bénédiction de la vie éternelle. Le royaume gouverné par Jésus est un royaume de vraie paix et de vrai repos. Le verset « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. » Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 7, signifie symboliquement un état de paix parfaite où tous les conflits et la discorde ont disparu. En ce lieu, il n'y a ni culpabilité, ni peur, ni compétition. Ceux qui sont sous le règne de Jésus demeurent dans un repos complet, et leurs cœurs sont entièrement à l'aise. La promesse du royaume des cieux, que Jésus a faite quand il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », Matthieu, chapitre 11, verset 28, devient une réalité éternelle. De plus, le peuple du royaume des cieux reçoit la bénédiction de jouir du glorieux héritage avec Jésus. Comme dans le verset, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône », Apocalypse, chapitre 3, verset 21, « Ils ne sont pas seulement des sauvés, mais sont aussi établis comme des héritiers qui partagent l'autorité du roi. » Comme dans le verset, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ », Romains, chapitre 8, verset 17, dans le règne de Jésus, les enfants de Dieu deviennent participants de la gloire du roi. Le royaume de Jésus est plein d'amour et de joie. Dieu est amour, et dans son royaume, cet amour est parfaitement accompli. Comme dans le verset, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 16, le royaume des cieux est là où l'amour est la loi, et l'amour est la vie. En ce lieu, il n'y a ni haine ni division, et tout le peuple est uni comme un seul dans l'amour. La joie qui découle de cet amour est une joie parfaite que le monde ne peut donner. Enfin, dans le royaume des cieux gouverné par Jésus, les saints jouissent aussi de la glorieuse bénédiction de régner avec Jésus. Le verset, « Et ils régneront au siècle des siècles », Apocalypse, chapitre 22, verset 5, montre que le règne de Jésus n'est pas une domination unilatérale, mais un règne d'amour qui règne avec le peuple. Jésus ne garde pas son peuple simplement comme des sujets obéissants, mais les établit comme des co-dirigeants qui accomplissent sa volonté ensemble. Ils prendront en charge l'œuvre du ciel avec le Seigneur et accompliront une mission glorieuse. En conclusion, ceux qui vivent sous le règne de Jésus jouiront de la bénédiction de la communion éternelle avec Dieu, de la bénédiction de la paix où le péché et la mort ont disparu, de la bénédiction de la vie éternelle et de la résurrection, de la bénédiction pleine d'amour et de joie, et de la glorieuse bénédiction de régner avec Jésus. Le royaume de Jésus n'est pas un royaume de pouvoir, mais un royaume d'amour et de justice, ce n'est pas un règne de force, mais un règne de grâce. Ceux qui appartiennent à ce royaume goûtent déjà les prémices de cette bénédiction sur cette terre, et espèrent la gloire d'être avec Jésus pour toujours. Comme dans le verset, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit, Daniel, chapitre 7, verset 14, le règne de Jésus est éternel, et ceux qui demeurent en lui jouissent déjà de cette bénédiction éternelle dès maintenant. Comment Jésus est-il celui qui nous explique tout sur le royaume de Dieu? Jésus est celui qui est venu dans ce monde, a directement enseigné tout sur le royaume de Dieu, et a réellement ouvert et montré ce royaume. Il n'était pas simplement un enseignant qui expliquait le royaume des cieux, mais il est venu comme la substance même et le roi de ce royaume. Par sa parole et sa vie, et par le ministère de son baptême et de la croix, Jésus nous a révélé l'essence du royaume de Dieu. Premièrement, Jésus a expliqué le royaume de Dieu par des paraboles. Pour aider les gens à comprendre, il a utilisé des choses de la vie quotidienne pour enseigner la nature du royaume des cieux. Jésus a dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de senvé qu'un homme a pris et semé dans son champ », Matthieu, chapitre 13, verset 31, montrant que le royaume de Dieu est un royaume qui commence petit, mais grandit et embrasse toute vie. Aussi, en disant, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ », Matthieu, chapitre 13, verset 44, il a expliqué que le royaume est plus précieux que toute autre valeur dans le monde. De plus, en disant, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée », Matthieu, chapitre 13, verset 33. Il nous a fait savoir que le royaume de Dieu est un royaume qui a le pouvoir de transformer une personne du plus profond de son cœur. Finalement, Jésus a enseigné que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de pouvoir visible, mais un royaume spirituel qui entre dans le cœur par la foi. Les paroles, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », Luc, chapitre 17, verset 21, signifient exactement cela. Deuxièmement, Jésus a montré la vérité du salut par le ministère de son propre baptême et de la croix. Sa vie elle-même était la vérité du salut pour l'humanité. Sa guérison des malades était une démonstration du règne du royaume de Dieu. Jésus a proclamé, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle », Marc, chapitre 1, verset 15, et sa venue elle-même a montré que le royaume de Dieu était venu sur cette terre. Celui qui croit en la justice de Jésus est déjà devenu quelqu'un qui est entré dans le royaume de Dieu. Troisièmement, Jésus nous a accordé le royaume de Dieu par le baptême qu'il a reçu de Jean, la croix et la résurrection. Le baptême de Jésus et le sacrifice de la croix n'étaient pas un simple sacrifice, mais l'événement du salut qui a ouvert les portes du royaume des cieux qui avaient été fermées. Il est celui qui, en recevant le baptême de Jean et en faisant transférer les péchés du monde sur son propre corps, et en étant jugé sur la croix pour nos péchés, a permis aux croyants d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, en ressuscitant des morts, nous a permis, à nous qui croyons, d'obtenir la vie éternelle. Le ministère juste de Jésus devait devenir la pierre angulaire pour établir le royaume de Dieu, et c'était le ministère qui a établi le monde du règne de Dieu. La parole, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, Romains, chapitre 14, verset 17, montre précisément l'essence de ce royaume. Jésus est l'incarnation parfaite de cette parole, et quiconque croit en lui devient déjà un citoyen de ce royaume. En conclusion, Jésus est le chemin pour entrer dans le royaume de Dieu par la parole de Dieu, et il est la substance de la vérité. Il a montré le royaume de Dieu par la parole de Dieu, et il a ouvert les portes de ce royaume par le baptême qu'il a reçu de Jean, le sang de la croix, et la résurrection. Par conséquent, Jésus n'est pas simplement un enseignant ou un prophète qui a expliqué le royaume des cieux, mais il est le roi et la substance même de ce royaume. Ceux qui croient en Jésus sont ceux qui sont déjà entrés sous son règne et sont devenus le peuple du royaume des cieux. Cette parole, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi », Jean, chapitre 14, verset 6, déclare que Jésus est le seul chemin vers le royaume de Dieu. En résumé, Jésus a expliqué le royaume de Dieu par des paraboles, et il a montré et accompli le royaume de Dieu par le ministère rédempteur du baptême de Jésus-Christ et le sacrifice de la croix. Par conséquent, celui qui demeure en Jésus-Christ par la foi est déjà devenu une personne du royaume de Dieu et a reçu la bénédiction de vivre sous ce règne béni, même maintenant sur cette terre. Alléluia! Nous rendons des grâces et une gloire infinie au mérite du Seigneur qui nous a sauvés de tous les péchés du monde par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur est devenu celui qui donne le salut éternel à ceux qui, en croyant au baptême qu'il a reçu de Jean et au sang du sacrifice de la croix, ont vu leurs péchés éliminés et ont ainsi obtenu le salut. Ceux qui sont entrés dans le règne du Seigneur par la foi dans le ministère de notre Seigneur loueront la justice du Seigneur pour toujours. Alléluia.